Et vous, vous avez le privilège encore de devoir me supporter. C'est pour apprendre la patience, comme disait Louis tout à l'heure. La persévérance. L'instruction. C'est sur cette thématique que je nous invite à poursuivre cette deuxième partie instructive, j'espère, en tout cas, de notre culte. Mais la suivante, là, Pedro, la 6. Oui, numéro 6, normalement. On va voir si je fais ça. Ah, parce que moi, j'ai plus l'affichage, en fait. C'est pour ça que je pensais que je ne voyais plus rien. Bon, ben, je le vois, moi, je ne les vois plus, Pedro, alors je te ferai signe, parce que je ne sais pas quand ça passe et quand ça ne passe plus. Ça marchait tout à l'heure. Comment vivez-vous l'instruction ? Comme une obligation ? Ou comme quelque chose qui pourra servir un jour, peut-être ? Un peu, en tout cas, si je n'ai pas tout oublié. Ou comme une mine de trésors et de découvertes. Il y a tout un panel de nuances entre ces possibilités. Peut-être que ça dépend de beaucoup de facteurs, de notre âge notamment. Les jeunes sont avides d'apprendre, mais en même temps souvent enclins à croire déjà tout savoir. Combien même ils ont encore beaucoup à découvrir. Les plus âgés ont déjà les cheveux gris de la sagesse et de l'expérience. Ou peut-être sont-ils plus conscients des difficultés de mémoire qu'ils commencent à avoir, et ils se désolent de ne plus pouvoir apprendre comme avant. Et il y a encore tout un panel de nuances entre ces possibilités. Et ceci étant, un facteur principal, plutôt que nous-mêmes en tant que récepteurs, et peut-être aussi l'émetteur, qui est donc celui ou celle qui instruit ou prétend instruire ? Est-il qualifié, formé pour cela ? Bon pédagogue ? Maîtrise-t-il ou elle ce qu'il ou elle enseigne, transmet ? Est-il ou elle digne de confiance, motivé par sa tâche ? Ayant particulièrement à cœur celles et ceux qu'il ou elle a la charge ou le privilège d'instruire. Là encore, tout un panel de nuances. Et plus important encore, l'instruction elle-même. Quelle est-elle ? En quoi consiste-t-elle ? Quel est son but ? Quelles conséquences a-t-elle ? Là encore, vous l'avez deviné, tout un panel de nuances. L'instruction peut en tout cas se faire ou se transmettre de bien des façons, et ce matin, c'est un morceau de cantique multimillénaire que je vous invite à lire. Beaucoup de choses étaient écrites, mais beaucoup étaient aussi apprises, récitées, répétées, et une partie importante chantée à l'époque. Instruisez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, encouragera bien des siècles plus tard l'apôtre Paul dans une de ses lettres. Il était parfaitement dans la continuité de la pensée antique. Le chant, nous le savons, n'est pas que divertissement, il est aussi instruction, un élément en tout cas de l'instruction. Certainement l'importance de ne pas chanter n'importe quoi. C'est dans Deutéronome, certainement un de nos livres favoris, n'est-ce pas ? Une partie de la parole de Dieu, en tout cas. Alors, il a certainement envie de nous y dire des choses. Deutéronome, chapitre 32, je lis le verset 2. « Que mes instructions, » nous continuons bien la même thématique, « que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » Beau verset, n'est-ce pas ? C'est ce que je me suis dit en le découvrant. Comme la pluie, comme la rosée, comme des ondées, comme des gouttes d'eau. Quatre comparaisons, quatre images bien parlantes, utilisées pour caractériser les instructions de Dieu. Le fait d'avoir connu un été comme cette année, avec des conditions climatiques très chaudes et sèches, de sécheresse même ces derniers mois, nous aide peut-être à mieux visualiser ces images rafraîchissantes et bienfaisantes et nous faire envie, non ? À nous donner l'eau à la bouche, si je peux détourner un peu cette expression. Oh oui, on a bien envie de ces instructions-là, les instructions qui nous rafraîchissent, qui nous abreuvent. En particulier si nos conditions de vie, nos circonstances sont quelque peu arides ou désertiques. Quelles sont donc ces instructions qui font du bien, qui désaltèrent et rafraîchissent, qui font verdir ? Lisons le contexte du verset. Lisons le contexte. Toujours bien lire le contexte d'un verset pour mieux en saisir le sens premier, le considérer dans l'environnement où il a été énoncé à l'époque aux premiers auditeurs ou lecteurs. Et donc, on va lire à partir de Deutéronome, chapitre 31, verset 22. Ça marche a priori, Pedro. Hein. Ce jour-là, Moïse écrivit le cantique qui suit et il l'enseigna aux Israélites. Il l'enseigna. Donc, on est bien dans une logique d'instruction, de transmission. Et c'est bien un cantique, comme je le disais en introduction. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Noun. Il dit : Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel : Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. En effet, je connais ta révolte et ton esprit réfractaire. Si vous vous révoltez contre l'Éternel pendant que je suis encore en vie, au milieu de vous, combien plus le ferez-vous après ma mort ? Rassemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Oui, je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite. Le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par votre manière d'agir. Moïse fit entendre à toute l'assemblée d'Israël la totalité du cantique qui suit. 32. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas de sa faute. La honte en repose sur ses enfants. Cette génération fausse et tordue. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse ? N'est-il pas ton père, ton maître ? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi ? La différence du peuple d'Israël, malheureusement, à cause du temps, on ne va pas lire la totalité du cantique. Bonne excuse pour moi pour sortir quelques-uns des versets les plus durs. Et je vais directement au verset 26. Résumant quelque peu la pensée de l'Éternel dans ce texte. Je voudrais dire, c'est toujours Dieu qui parle, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leurs souvenirs parmi les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires n'interprètent mal et ne disent « c'est notre main qui est puissante, ce n'est pas l'Éternel qui accomplit tout cela ». Verset 36. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux ? Le rocher qui leur servait de refuge. Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, qui buvaient le vin de leurs offrandes. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent. Qu'ils vous couvrent de leur protection. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Verset 43. Nations, réjouissez-vous avec mon peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint prononcer toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Noun, était avec lui. Lorsque Moïse eut fini de prononcer toutes ces paroles devant tous les Israélites, hop, j'ai plus d'affichage à nouveau. Je ne sais pas si ça passe, la suite. Il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé. » On s'attendait à des instructions rafraîchissantes et qui font du bien. Ça semble plutôt raté. L'ambiance est même carrément plombée. Quel dur passage, en effet. Quel dur passage. Pour être transparent avec vous, comme je ne connais pas toute la Bible par cœur, et non, désolé, pour préparer avec mon logiciel biblique, j'ai fait une recherche des mots, instructions, enseignements, apprendre, ce genre de mots. Des fois comme ça que je fonctionne, pour me faire une idée globale du sujet à travers toute l'Écriture. Et ce beau verset 2 est sorti avec les dizaines d'autres, ayant ces mots, et je me suis dit, après avoir juste regardé un ou deux versets autour de ce verset-là, de me dire, ah ouais, ça c'est un bon début pour la prédication, je l'utiliserai bien ce verset. Et je vous ai envoyé le mail d'annonce disant que j'allais l'utiliser. Et puis après, j'ai lu toute la suite. Et je me suis dit, oh là là, j'aurais mieux fait de choisir autre chose. J'étais plutôt embêté. Où est le rafraîchissement annoncé? Où sont les instructions bienfaisantes? Moi qui voulais encourager à aimer les instructions de Dieu, c'est plutôt pas facile sur la base de ce verset et de son contexte et de ce cantique, à moins d'occulter tout le contexte. La parole ne nous dit pas toujours ce que l'on aimerait entendre. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne la page, on passe à autre chose? Il paraît que les choses passent mieux en chanson. Mais je ne suis pas sûr que l'on chanterait quand même volontiers tout ce genre de cantique dans nos réunions d'église. Alors, je n'ai pas regardé, mais je ne sais pas si dans le recueil, ils ont pris le cantique de Moïse. Celui-là, en tout cas. Ou comme je viens de le faire, on se concentrait peut-être juste sur les versets les plus porteurs, voire seulement sur le verset qui nous plaît. Et au-delà de l'aspect cantique, ce genre d'instruction aurait-elle de notre part une oreille attentive? Ce n'est pas des plus roses, et c'est peu de le dire, c'est même plutôt noir. La faute, avec de grosses guillemets, à l'omniscience de Dieu, qui fait qu'il connaît déjà tout le mal qu'Israël va faire. Plutôt la faute et la sanguinée à Israël. Israël désobéissant qui, malgré les avertissements fidèles et récurrents de Dieu, et ce cantique en est avant tout un, va quand même rompre l'alliance que Dieu avait faite avec lui. Omniscience de Dieu. D'ailleurs, un certain nombre de spécialistes, hein, parce que la plupart ne croient pas en l'existence de Dieu, et donc a fortiori ils ne croient pas en l'omniscience de Dieu, ont rejeté l'authenticité et l'historicité d'un tel passage. Ils le croyaient beaucoup plus tardif que l'époque de Moïse, le disaient postérieur aux événements qu'ils dénoncent, plutôt que les annonçant prophétiquement comme avertissement. Mais désormais, l'archéologie a retrouvé des écrits profanes du deuxième millénaire avant notre ère, très similaires à notre texte, des procès d'alliance, comme on les appelle en leur forme littéraire, procès d'alliance entre des suzerains et des vassaux rebelles, tels l'Éternel face à son peuple d'Israël, qui, dans une même structure que notre cantique, appelle l'attention de l'accusé, appelle le ciel et la terre comme témoins, émettent des questions du plaignant à l'accusé, rappelle les bienfaits accordés au vassal, puis souligne malheureusement l'ingratitude de ce dernier, et enfin se termine par une déclaration de culpabilité, un avertissement à un jugement futur ou un appel au changement de conduite. C'est aussi le cas de ce cantique antique de Moïse, parlant de la part de Dieu. Avec quand même la différence notable que notre cantique, en plus, a dans sa section finale l'expression quand même de l'espérance et de la confiance dans le salut de Dieu malgré tout pour ses serviteurs. Dieu sait effectivement à l'avance la désobéissance à venir, mais malgré tout, à cause de son nom, et je reprends là un point qu'on avait évoqué il y a 15 jours pour ceux qui étaient là, à cause de qui il est, il y a espérance, même si elle peut être à plutôt long terme. Espérance en tout cas pour qui se confie en lui, parce que pour les rebelles, malheureusement, tristement, leur avenir est plutôt sombre. Laissez-vous instruire par moi, disait Jésus dans le verset que j'ai utilisé tout à l'heure dans la première partie du culte. Laissez-vous instruire par moi. C'est certainement un appel, une invitation, une insistance, une supplication presque, que l'on pourrait mettre dans la bouche de Dieu. À travers toute l'histoire de l'humanité et l'histoire du peuple d'Israël, laissez-vous instruire par moi. Mais tant de personnes ne veulent pas. Moi-même, parfois, souvent, trop souvent, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je le veux vraiment? Nous comprenons bien sûr qu'il ne s'agit pas là de simplement engranger du savoir. Se laisser instruire, ça veut également dire se laisser conduire, se soumettre, faire de Dieu effectivement le maître de nos vies. Facile à dire Seigneur, mais Seigneur, ça veut dire celui qui règne sur moi. Et des fois, je ne le laisse pas vraiment régner. De toute évidence, une large partie du peuple d'Israël ne le voulait pas vraiment. Cela attristait l'Éternel, cela énervait Moïse. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Je ne sais pas si c'est une excuse, mais il me semble que le problème réside pour partie, une large partie, me semble-t-il, dans la perception a priori, c'est-à-dire sans les connaître vraiment, sans vraiment connaître ces instructions, un a priori de ce qu'elles sont, ces instructions de Dieu. Le problème réside dans la perception, a priori, oui, de ce que sont ces instructions. Quel est l'a priori naturel ou usuel, fréquent des êtres humains concernant les instructions de Dieu? De nos jours, en tout cas en Occident, en France, il me semble que dans une large mesure, l'a priori est négatif. Négatif. Non, les trucs de Dieu, les religions, forcerie le christianisme, ce sont qu'obligations, interdictions, c'est que rabat-joie, c'est liberticide. L'histoire de l'Église le montre bien. N'est-ce pas un a priori largement répandu et entendu? Et apparemment, ça fait quelques millénaires que ça dure. Les instructions de Dieu sont liberticides. N'est-ce pas déjà en substance ce que Satan a dit à Adam et Ève pour les faire douter, pour les faire chuter? Il a malheureusement réussi à les convaincre. En plus, en français, on est peut-être aussi influencé par le pluriel de ce mot. L'instruction au singulier, c'est le savoir, la connaissance, l'éducation. C'est perçu comme bénéfique, enrichissant, à rechercher. Mais les instructions au pluriel, ce sont des ordres, des directives qu'on nous impose. Non, ça, moi, j'aime pas. Et vous? Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Évidemment, à la réflexion, et vous l'aurez sans doute compris plus vite que moi, les instructions de Dieu dont parle ce verset 2 ne sont pas nécessairement les paroles du cantique elles-mêmes. Je pense avoir mal interprété en pensant d'abord cela. Les instructions de Dieu sont cette loi divine transmise à Moïse et transmise au peuple par Moïse. Ainsi, Moïse instruit le peuple par un cantique qui prend pour référence les instructions de Dieu, qui est la loi divine que Dieu et Moïse savent que le peuple ne va pas respecter. Ce mot « instruction » fait référence à la loi dont les Lévites doivent garder l'original à côté de l'Arche de l'Alliance, comme on l'a lu. C'est cette loi que Dieu voudrait qu'elle se répande comme une eau bienfaisante. « Car la loi est bonne », écrira encore l'apôtre Paul. Et dans les deux derniers versets du cantique, d'ailleurs, que nous avons lus, verset 47, Dieu lui-même le souligne avec insistance. Les paroles de cette loi, ce n'est pas une parole sans importance. C'est votre vie. C'est votre vie. Ah bon ? Une loi peut vraiment être vie ? Une loi peut-elle vraiment être vie ? C'est vrai que dans notre culture gréco-latine, combien même la loi est un ensemble de règles définissant les droits et les devoirs de chacun, on l'aperçoit souvent, pas toujours, mais souvent plutôt comme un carcan, une contrainte, ou en tout cas une limitation de nos libertés. Certes, utile et nécessaire peut-être, parce que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Alors oui, la loi est nécessaire pour régir une société. Mais de là à la considérer comme une autre vie, peut-être pas exagéré quand même. Hein ? Diriez-vous facilement que la loi française est votre vie ? Un silence qui en dit long plana alors sur l'Assemblée. Et si vous aviez été israélite, auriez-vous facilement, plus facilement dit que la loi transmise par Dieu était votre vie ? Dans l'Ancien Testament, plusieurs auteurs, des psalmistes en particulier, exprimeront pourtant leur bonheur d'avoir la loi et de pouvoir lui obéir, car cette loi est vraie et juste. La loi est ce qui ordonne le bien, ce qui met de l'ordre dans le monde et dans la vie. La loi est une orientation donnée par Dieu face aux différents choix possibles. La loi est enracinée dans la nature de Dieu et parle de solidité, de fidélité, de vérité, d'amour. Elle est vérité. La loi est comme un balisage de chemin en montagne. J'aime beaucoup cette image. Pas nécessairement celle qui est affichée, mais l'image du balisage. On peut croire que c'est une contrainte. « Non, mais moi, je veux aller où je veux. Je veux me promener comme ça me plaît. » C'est vrai que le balisage peut sembler empêcher d'aller où on veut, mais pour celui qui est perdu, imaginez-vous dans le brouillard, par exemple, et qui retrouve ce balisage, je peux vous dire qu'il le retrouve avec joie. Avec joie, car il est pour lui synonyme de vie et de secours. Dans une contrée désertique, ce sera la même chose. Celui qui est perdu et trouve le balisage de la loi est dans la joie. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Les instructions de Dieu ne sont pas liberticides, elles sont protectrices. Elles veulent nous empêcher de faire n'importe quoi de notre liberté, justement. Offrir un cadre à une liberté que malheureusement l'homme utilise pour la mort, pour pécher. Parce que l'homme se complaît souvent dans le mal, dans une inconscience, insouciance et inconséquence. Israël, ses instructions, va les enfreindre, ne pas les respecter, les bafouer, et se faisant bafouer leur auteur, leur inspirateur, Dieu lui-même. Je mentionne Israël pour ne pas dire nous ou je, hein. Ça serait valable aussi. Les instructions de Dieu ne sont pas liberticides, elles sont révélatrices de cet état de pécheur. Puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Dit un verset du Nouveau Testament. Ce n'est qu'en acceptant de reconnaître cet état de pécheur, c'est certainement là le point de blocage pour beaucoup, plus facile de rejeter la faute sur les autres, ou sur Dieu, ou sur nos circonstances, mais ce n'est qu'en acceptant de reconnaître cette déchéance dans laquelle nous sommes, êtres humains, qu'alors nous comprenons que nous sommes morts, desséchés, telle une plante sans vie, sans eau, et que nous avons besoin de vivre, besoin d'une eau vivifiante. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce sera rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pouvons obtenir la vie grâce et par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Automatiquement, comme moi, vous faites peut-être le rapprochement entre ce verset et un autre plus tardif, dans le livre du prophète Ésaïe, qui parle aussi de la parole de Dieu et de son effet, telle la pluie, abreuvant, fécondant, faisant germer, en Ésaïe 55, comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans avoir fécondé et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Évidemment, on ne peut que voir premièrement l'aspect bénéfique et positif de cette parole. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de commentateurs relèvent. J'en lis un en particulier qui dit « Comme la pluie, l'eau du ciel fait sortir du sol une riche végétation. Ainsi, cet enseignement doit féconder tous les bons sentiments en germe dans le cœur du peuple de Dieu. » Mais des fois, on voit que cela dans une vision peut-être un peu trop idéaliste des choses. En considérant cela à l'aune du cantique de Moïse, largement sombre, comme on l'a vu quant à ce qui va effectivement germer, je ne peux m'empêcher de voir également un autre pan de la vérité, certainement moins réjouissant, mais pas moins vrai pour autant. Tout le monde a-t-il faim ? Tout le monde a-t-il faim et soif de Dieu et de ses instructions ? Dieu place devant nous, devant chacun de nous, et place chacun de nous plutôt devant ses responsabilités. Dieu nous laisse la liberté de choix. Mais en écrivant et en transmettant ses récits, il nous place aussi devant ses avertissements quant aux conséquences de ses choix. Tout le monde veut-il se laisser instruire par lui ? La réponse est non, malheureusement. Comme l'eau, la parole de Dieu, ses instructions feront effectivement germer, tout germer, c'est sûr. Mais que feront-elles germer ? N'y a-t-il que des bons sentiments en germe dans le cœur du peuple d'Israël ? Loin s'en faut. Le commentateur ne semble-t-il pas, pour le coup, pas nécessairement bien lu le contexte. Tout dépend en effet de la graine qui est dans le sol, tout dépend de la graine qui est dans le cœur. Est-ce un bon grain ou est-ce de la graine d'épine, de la graine d'ivraie ? On le voit pour Israël, on le voit malheureusement de tout temps. Il ne s'agit pas d'en devenir fataliste ou pessimiste, mais c'est une triste réalité dont il faut aussi avoir conscience. Tout ce qui poussera, tout ce que la parole révélera, venant du secret des cœurs des hommes, ne sera pas à la gloire de Dieu. Que fera-t-elle germer en vous ? Que fera-t-elle germer en nous ? Reprenons l'image de ce verset et d'autres images fréquentes dans nos Bibles. Pour que ce soit une belle plante qui pousse et une plante qui porte de bons fruits, il faut assurément que Dieu change nos cœurs. Que Dieu plante premièrement sa semence. On l'a chanté tout à l'heure. Viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. aussi ce qui est possible par la foi en Jésus-Christ. C'est ce qui est possible par l'œuvre du Saint-Esprit qui propose cela. Mais Dieu ne l'impose pas. Voulons-nous être instruits par lui ? Je vous laisse cette question ouverte. Dans la même logique de ce que peuvent germer des choses bonnes et des choses pas bonnes, je conclurai aussi avec un autre verset de l'apôtre Paul, que Dieu a bien inspiré aussi, en Corinthiens. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Une autre façon de dire qu'à travers nous aussi les instructions de Dieu peuvent se répandre, se propager. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, ça germe mal, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, ça germe bien, un parfum de vie qui donne la vie. Pour cette mission qui est donc qualifiée. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les autres, et c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant lui que nous parlons. Répandons les instructions de Dieu, soyons la bonne odeur de Christ pour Dieu et pour les autres, et ensuite, à chacun sa responsabilité. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous y aide, et que dans sa grâce encore, il change encore des cœurs, en y semant effectivement et faisant germer positivement sa parole. Ma prière est que ce soit pour le plus grand nombre. Mais lucidement, sachons que ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Et c'est bien triste. Amen. Ça finit comme ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, ô combien nous voudrions que ta parole, que tes instructions soient effectivement rafraîchissantes, bienfaisantes, faisant germer de belles choses, telle une oasis dans un désert. Tes instructions font germer ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et c'est vrai que naturellement, ce qui y est et ce qui germera n'est pas à ta gloire. On le voit avec Israël qui restera en grande partie rebelle, malheureusement. Seigneur, ô combien l'humanité, ô combien nous avions nous-mêmes besoin que tu changes nos cœurs premièrement et que tu continues à nous purifier jour après jour. Et nous prions aussi pour nos contemporains, que dans ta grâce, ne fasse pas simplement germer ce qu'il y a, mais que tu mettes ta grâce, que tu mettes le bon grain, que tu mettes ta parole effectivement, qu'elle germe, pour qu'elle nettoie, pour qu'elle change les cœurs, que les gens en plient le genou, cèdent, acceptent de reconnaître leur état de pécheur, pour que ces instructions deviennent effectivement salvatrices et non pas condamnantes pour eux. Seigneur, donne-moi pleinement conscience de ma part dans cette œuvre de répandre tes instructions, de répandre ta parole. C'est vrai que souvent, ma vie, notre vie en tant qu'Église, l'histoire de l'Église font qu'il y a plutôt des a priori négatifs te concernant, des a priori négatifs concernant tes instructions qui sont vues comme liberticides, rabat-joie, alors que c'est tout le contraire. Tu veux vraiment libérer, libérer du péché, libérer de tout ce qui est mauvais en nous. Seigneur, aide-nous à vivre une vie digne, qui soit effectivement dans la joie du salut, qui soit dans l'amour du prochain, pour réellement donner envie à d'autres personnes de découvrir ces instructions que tu veux partager. Combien nous avons besoin de ton aide, Seigneur, si tu veux nous utiliser. Change les cœurs, Seigneur. Change les cœurs et qu'effectivement il puisse y avoir davantage d'oasis partout, ici, alentour et en nous. Merci de ton aide jour après jour. Merci de ton soutien. Merci. Effectivement, parce que tu es le seul qui peut changer les choses fondamentalement, radicalement. Et que ce soit à ta gloire, Seigneur. Amen.